Caroline Sauriol, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui parce que l'on sait que c'est une période qui est bien occupée pour vous du côté de les petits frères. Donc, c'est très apprécié, Caroline. D'entrée de jeu, peut-être une observation de ma part. Je me disais, bon, ici, en Amérique du Nord, je dirais même en Occident, là, on est dans un monde où le vieillissement, ça n'a pas trop la cote, là. Même les magazines, les publicités vont nous proposer des personnes âgées, souvent, très, très en forme, pas de rides, pas de cheveux blancs. Et je me dis, ce désintéressement-là qu'on a envers nos personnes aînées, c'est pas une façon aussi de se détourner un peu de notre crainte de vieillir?
Oui, certainement. Vous commencez avec une grande question, effectivement. Mais c'est certain, on est dans une société où on valorise depuis déjà des décennies là, qu'on valorise la jeunesse, la beauté, la forme. Et bien sûr qu'on a on a peur de vieillir au cours des dernières décennies aussi. Notre société a beaucoup évolué. Puis si on regarde, hein, c'était le culte de la jeunesse, mais avec l'évolution des baby boomers aujourd'hui, évidemment à travers ces années, nos stéréotypes sociaux ont suivi, je dirais, l'évolution de ces personnes qui ont construit le Québec et qui y ont contribué bien généreusement. Mais aujourd'hui, ils sont dans un âge où ils ont 65 ans, 70 ans, sont en forme, ils ont pris leur retraite, souvent ils ont certains moyens financiers aussi, puis ils veulent continuer à contribuer même s'ils ne travaillent plus. Et c'est bien sûr, c'est ça le discours ambiant dont on entend parler. Mais chez les petits frères, nous, on s'occupe des personnes qui ont 75 ans et plus. Alors, ce sont des personnes qui sont dans une autre phase de la vie. À partir de 75 ans, 80 ans, souvent, il y a toutes sortes de pertes qui s'installent. Et puis là, la vieillesse, elle ne se vit pas tout à fait de la même façon. Ouais. Et nous, on s'assure que ces personnes plus âgées, je dirais, continuent à bien vivre aussi.
1100 personnes âgées, je pense, dans les personnes que vous appelez les vieux amis, Caroline?
Exactement, oui, 1100 personnes réparties dans 15 villes au Québec.
Wow.
Près de la moitié, presque la moitié d'entre elles sont dans la région de, en fait, sont sur l'île de Montréal, mais on a aussi des équipes à Laval, à Longueuil, mais ça va jusqu'à Rimouski et à Saguenay, donc on est présent un petit peu partout. Et c'est grâce à l'apport de plus de 1500 bénévoles qu'on peut changer la vie de ces personnes, leur offrir une famille d'adoption, mais c'est vraiment ancré là, dans l'engagement de nombreux citoyens qui ont envie de donner leur temps et leurs énergies.
Ouais. Qui sont ces personnes que vous appelez les vieux amis, je l'entends bien, 75 ans et plus, mais des gens qui ont été identifiés seuls, sans proches, sans famille immédiate?
Exactement. En fait, les personnes souvent vont nous appeler par elles-mêmes, hein, parce qu'on on souhaite se faire connaître, mais on est effectivement une famille pour les personnes qui n'en ont plus, alors ou qui n'en ont jamais eu. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas d'enfants, pas d'entourage proche. Parfois, ils ont des enfants, mais qui habitent à l'étranger, ou c'est des enfants, parfois, malheureusement, à qui ils ne parlent plus. Alors, dans les faits, au quotidien, ils sont vraiment dans une grande situation d'isolement et de souffrance par rapport à cet isolement. Et nous, grâce à la promesse qu'on leur fait d'être avec eux pour toujours, bien, on vient recréer ou créer une famille autour d'eux. On va les entourer d'affection. On va porter attention à où ils en sont dans leur vie, puis s'assurer qu'il y a de la vie, il y a de la joie, et il y a du réconfort aussi pour toutes les années qui leur restent.
Ouais. Ce que je ressens envers votre engagement, Caroline, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Parce qu'on pourrait être porté à interroger, mais pourquoi cette personne-là s'est retrouvée seule après 75 ans de vie? Vous n'êtes pas du tout là-dedans, les petits frères.
Absolument pas. Effectivement, c'est vous faites bien de le remarquer parce que il y a toutes sortes de parcours de vie qui peuvent faire qu'une personne est seule et on n'a pas à poser des questions est-ce que c'est de leur faute, est-ce qu'ils sont dans le tort, est-ce qu'ils ont fait quelque chose parce que souvent les fautes sont partagées ou pas. Mais alors il y a ces situations où les personnes parfois peuvent être en rupture avec leur entourage, puis dans ces cas-là, évidemment, on veut pas porter de jugement. Mais il faut penser que il y a personne qui avait fait un plan de vie là, en se disant hey, « Moi, quand je vais être vieux, là, j'espère assez être tout seul dans mon appartement, oublié de tous. » Il n'y a pas personne qui a fait ce plan de vie-là. Et quand les choses nous arrivent, en fait, quand on vieillit, Une des plus grandes causes de la solitude de ces personnes, c'est le décès de leurs proches.
Mm-hmm.
Alors, parfois, ils ont eu un conjoint, ils ont même eu des enfants, mais quand on a 95 ans, là, il arrive que notre fils de 74 soit décédé.
Oui.
Alors, ça arrive aussi, ces parcours de vie, vous savez, bon, les femmes vieillissent plus vieilles. Parmi nos vieux amis, il y a plus de 50% qui sont veufs ou qui ont eu une séparation dans leur vie. Alors, c'est pas nécessairement des personnes qui ont été toutes seules toute leur vie,
mm-hmm.
mais en vieillissant, ben, leur conjoint est décédé, leurs frères, leurs sœurs, les cousins. Et souvent, ils vont aller vivre dans des résidences, pas dans leur quartier. Hein, ils vont, par exemple, ils sont dans leur appartement, puis là, on dit, ben là, ça serait le temps d'aller vivre en résidence, mais la résidence, il n'y en a pas nécessairement une dans le quartier où ils ont toujours vécu. Alors, souvent, ils sont déracinés, ils sont placés dans d'autres, ils vont dans des institutions qui sont loin, donc ils doivent complètement recréer un réseau social. Mais quand on a 88 ans, qu'on a de la difficulté à se déplacer, qu'on n'a pas toute notre audition, se recréer un réseau social, c'est pas nécessairement simple non plus.
Oui. Et, bon, vous parliez tout à l'heure de plan de vie. Il y a personne qui a l'isolement et la solitude comme plan de vie. Évidemment pas. Surtout que l'on sait maintenant de plus en plus que la solitude, ça a des impacts sur la santé même de la personne âgée.
Certainement, certainement. Quand on est seul puis qu'on a le sentiment profond qu'on est oublié de tous, quand on pense que notre vie ne compte plus pour personne, c'est sûr qu'on a, c'est pas très motivant ou disons que ça génère pas beaucoup d'énergie positive là, pour faire toutes sortes d'activités ou même souvent on n'en a plus les capacités. Et c'est démontré que l'absence de relation, l'humain est un être social, un être de relation, et l'absence de relation autour de la personne crée un vide qui a des effets sur la production d'hormones, sur l'ensemble des énergies vitales d'une personne, et ça amène une détérioration de la santé. De plus, il y a des effets sur la santé mentale. Bien sûr, on peut penser évidemment à la dépression, mais même au-delà de ça, si on est moins stimulé, si on a moins de conversations avec les gens, si on n'a personne à qui penser, ben on réfléchit moins.
Mm-hmm.
Et donc, ça aussi, ça amène des effets sur les facultés cognitives.
Mm-hmm.
Et on peut penser aussi dans les cas de rétablissement, quand les personnes vivent des maladies, ben il y a moins de stimulation pour se rétablir. Mais hier soir, aux nouvelles, ils montraient un robot phoque là qu'ils utilisent dans certaines résidences dans d'autres pays, et il démontrait que même un robot phoque favorise la stimulation sensorielle des gens et mm-hmm. préserve leur capacité cognitive. Alors, vous voyez toute l'importance des relations dans la vie d'une personne. Puis, je suis certaine que d'avoir quelqu'un qui parle, c'est encore mieux qu'un robot phoque.
Ouais. Et ce que l'on entend aussi, Caroline, de plus en plus, c'est cette implantation-là de garderie ou du moins le passage d'enfants très jeunes dans les résidences pour personnes âgées. Je m'intéresse à ces liens intergénérationnels-là qui, pour moi, sont probablement un facteur de protection pour les personnes âgées.
C'est certain que c'est important et c'est intéressant pour les aînés de rester dans la vie, en fait, de pas être exclus, parqué derrière des portes closes dans des institutions où ils ne participent plus à la vie sociale ou à la vie de toutes les générations. Donc, d'être en contact avec des enfants ou des plus jeunes, qui sont pas nécessairement des tout jeunes enfants, il y a beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, de candeur, de relations et donc de stimulation et d'intérêt. Et ça, c'est très important, effectivement, dans la vie des aînés. Mais nous, chez les petits frères, ce qui est important pour nous, c'est de créer, en plus de ces manifestations sociales, je dirais, c'est de créer des relations qui ont du sens dans la vie des personnes aînées. Parce qu'on peut s'étourdir beaucoup, on peut participer à un ensemble d'activités, mais si on n'a personne à appeler en cas d'urgence, si on est vraiment tout seul et personne ne pense à nous, puis que demain Noël s'en vient, puis on se dit ben je vais passer Noël tout seul toute la journée, puis le téléphone sonnera pas. C'est au-delà de la socialisation simple, là, puis du divertissement, je dirais, c'est vraiment un sentiment de compter pour personne,
ouais.
De plus avoir de vie ou de même de passé ou de présent ou d'avenir. Et là, il y a une grande détresse qui s'installe autour de ça. Et nous, notre mission, c'est de recréer des liens dans la vie de la personne. Et on va jumeler ce qu'on appelle nos vieux amis avec beaucoup d'affection. on va les jumeler à un bénévole qui va entrer dans leur vie et qui va tisser une relation à long terme d'amitié avec ce vieil ami-là. Et donc, tout d'un coup, elle retrouve une place dans le monde parce qu'elle a un fil qui l'accroche à une personne en particulier et qui se soucieront mutuellement l'une de l'autre et développeront des beaux liens. Et ça, ça change vraiment la vie. Au-delà des activités sociales, je vous dirais, ça change vraiment la vie que de penser qu'on compte pour quelqu'un.
Ouais. Vous les choisissez comment, vos bénévoles? J'imagine qu'ils doivent être triés sur le volet, justement, pour assurer cette relation à long terme. C'est pas tout le monde qui peut arriver à assumer ce genre d'engagement-là.
Oui, mais c'est souvent progressif aussi. Alors, nous, c'est sûr qu'on cherche des bénévoles qui souhaitent s'engager dans de telles relations, mais c'est pas tout le monde qui... Il y a des gens qui disent « je saurais pas quoi dire mm-hmm. » ou « je saurais pas quoi faire ». Premièrement, il faut se dire que c'est pas si compliqué que ça. Hein. On est deux êtres humains et la quantité de rides qu'on a dans le visage ne change rien à notre humanité puis à notre désir d'entrer en relation. Mais aussi, on a toutes sortes de formes d'accompagnement chez les petits frères parce qu'il y a aussi des visites à domicile qui sont moins engageantes que le jumelage. Donc, ils nous assurent de veiller sur nos vieux amis, surtout quand il y a des moments plus difficiles, il y a des visites à l'hôpital. Parfois aussi, on fait des repas, là, comme on le fera aussi pour la période des fêtes. Mm-hmm. Donc, on peut être chauffeur-accompagnateur chez les petits frères et donc véhiculer des gens, prendre des repas avec eux sans toutefois être jumelé. Donc, on cherche un ensemble de profils de bénévoles. Notre famille, elle est grande, elle est variée et on a besoin de gens, en fait, de gens de cœur, de gens qui ont envie de s'engager. Mais il y a toutes sortes de façons de le faire selon les aspirations des gens qui ont envie d'être bénévoles.
Si jamais ça vous intéresse, petitfrère.ca, je m'intéresse justement à cette façon très concrète que vous avez de briser l'isolement du côté de les petits frères. Caroline, entre autres, ces grandes soirées, ces grands rassemblements du 24 et 25 décembre. Et qu'est-ce qui peut être assez différent de d'autres organismes? C'est que vous faites pas ça le 18 décembre ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment la journée même. J'imagine qu'il y a une raison à ça.
Bien, je pense que si on vous disait que vous faites votre party de Noël de famille le 12 décembre, peut-être que vous
c'est moins amusant.
C'est moins sympathique.
Oui.
Et le 25 décembre, vous direz, ben là, où est-ce que je suis? Ça, on a fêté avant, mais il y a personne qui trouve que je suis assez important pour passer son 25 décembre avec moi. Alors, pour nous, on dit être la famille des petits frères et on y croit et c'est sincère de notre part. Alors, les familles, ça fête le 24, ça fête le 25. Mm-hmm. Alors, nous aussi. Et ça fait partie là, de nos fondements depuis la création des petits frères, de fêter Noël et Pâques, d'ailleurs, le jour même de la fête. Mm-hmm. Mais nous, notre fête, elle se sépare en deux fêtes parce que parmi nos vieux amis qui sont âgés en moyenne de 86 ans, parmi nos vieux amis, il y en a certains qui sont capables de sortir, de se préparer, de s'habiller, puis d'aller à une fête, de danser même et d'avoir du plaisir. Et ça, c'est possible et c'est ce qu'on fait dans le cadre de la fête du 25 décembre au Sheraton, qui est très médiatisé. Et d'ailleurs, cette année, on fête le 30e mm-hmm. anniversaire là, de cette fête au Sheraton. Mais le 24 décembre, on a la fête à domicile. Et donc, ce qui se passe le 24, c'est qu'on a préparé à l'avance des repas pour deux, un repas traditionnel, ragoût de boulettes et tourtière, mm-hmm. betterave, bouteille de vin. Et on a une armée de bénévoles qui vont venir chercher ces repas pour deux et qui vont aller visiter un vieil ami qui est à domicile et qui ne peut pas sortir pour la fête de Noël ou qui ne souhaite pas sortir. Et cette personne-là aura son Noël à domicile avec des poinsettias, des cadeaux mm-hmm. Et une belle fête, mais à deux, à domicile, pour être certain que chacun de nos vieux amis ait droit et ait le plaisir de son Noël.
Oui. Vous savez, Caroline, je vous écoute et je me dis, l'espoir, c'est très, très puissant. Et pour ces personnes-là, en ce moment, quoi, on est le 10 décembre, ils attendent, je suis certaine, cette journée-là avec impatience. Et c'est ce qui les accroche probablement quelque part un petit peu à la vie, puis à la santé ou à d'autres choses. Et je trouve que c'est très, très puissant comme engagement. Merci de le faire. Tout à l'heure, je parlais en introduction de la responsabilité. À qui la responsabilité? J'ai l'impression qu'on s'envoie un petit peu cette balle-là. C'est le gouvernement, c'est les communautés médicales. Non, c'est la famille. Bon, moi, je pense que c'est un petit peu à tout le monde, là, mais vous en pensez quoi?
J'en pense qu'on assiste à une transformation de la société. Il faut comprendre qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, là, ça nous apparaît comme une statistique quelconque quelque part, puis on pense souvent au coût de santé là, que ça engendre, puis que c'est pas tout à fait démontré, mais on pense souvent au point de vue financier là, de cette situation-là. Mais dans les faits, le fait que l'espérance de vie soit passée de 72 à plus de 80 ans et que ça ne cesse de s'allonger, le fait qu'on vieillisse plus longtemps en santé, c'est comme si ça ajoute une génération complète dans notre vie. On sait comme au cours des 40 dernières années, c'est comme si on s'était rajouté un 20 ans au bout de la vie. Et ça change. En fait, je pense qu'on n'a pas encore fait notre paix avec ça et on sait pas, on n'a pas encore bien réalisé ça, puis on ne s'est pas encore adapté pour inclure cette génération-là qui tout d'un coup est apparue au bout de la vie. Parce qu'avant, nos parents, là, à 72, 73, ils étaient vieux. Mm-hmm. Et là, on disait, bon, mon père, il est vieux, il a 72, puis il est mort à 76. Donc, il prenait sa retraite à 65, puis il décédait souvent à 72, 73. Mais aujourd'hui, on prend la retraite à 65, puis on décède à 80, 90. Alors, ça change tout le rapport qu'on a avec la vieillesse. Mm-hmm. Aussi, auparavant, dans les familles, il y avait 5 ou 6 enfants, là, auparavant, dans l'ancien temps, là. Donc, les familles étaient plus nombreuses. Donc, parmi les enfants, c'était pas nécessairement tous les enfants qui s'occupaient du parent. Souvent, c'était l'aîné ou la fille ou qui allait s'occuper du parent. Aujourd'hui, avec un ou deux enfants, dans la famille, souvent avec les enfants qui sont en grande mobilité puis qui ont quitté, ça a changé nos structures familiales puis le rapport aux aînés. Moi, je crois que les générations d'aujourd'hui, elles sont pas nécessairement moins généreuses ou moins aimantes que les générations antérieures, mais c'est notre rapport au temps, notre rapport à la génération qui nous précède, qui est en reconfiguration et qui nous pose aujourd'hui un défi. Pour moi, pour les petits frères, le défi, c'est de faire réaliser ça, de faire comprendre que l'isolement des aînés, là, c'est pas juste comme c'est triste, mais c'est pas comme un accident de parcours, c'est sociologique, c'est démographique, et il y a beaucoup de conditions qui nous amènent vers l'exclusion d'un grand groupe de personnes, et on doit ouvrir nos yeux à cette réalité-là et trouver des moyens de réintégrer les aînés dans notre vie. Tout à l'heure, vous parliez des garderies en milieu de résidence. Il y a aussi des résidences multigénérationnelles maintenant où il y a des jeunes familles qui vont s'installer dans des endroits où il y a des aînés plus âgés. Il y a ces dynamiques-là un peu structurantes, mais qui sont parfois parsemées, là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais socialement, on peut se demander, chaque Noël, si chaque famille se disait, est-ce que je connais quelqu'un qui est peut-être seul à Noël? Est-ce qu'il y a un aîné? Est-ce que j'ai une vieille tante à quelque part que je pense que peut-être qu'elle est seule? Est-ce qu'il y a une voisine dans ma rue ou un voisin que je vois passer, mais je me semble qu'il a l'air toujours tout seul? Peut-être que je peux l'inviter à ma fête de famille, peut-être que parce qu'une personne de plus, c'est toujours agréable, puis ça ajoute la diversité, ça change le pep dans nos familles. Et puis si on n'a pas un aîné, ben des fois c'est pas juste des aînés qui sont seuls. Hein. Il y a beaucoup de solitude à tous les groupes d'âge, dans tous les groupes d'âge. Malheureusement, les aînés ont moins de capacité de s'en sortir parce que parfois ils n'ont pas les capacités même physiques de se déplacer ou les relations peuvent être plus difficiles, mais il s'agit juste de se tendre la main, puis on va se retrouver. Puis on peut inviter des gens de toute génération, mais la solitude, c'est un grand mal de notre société. Puis pour briser la solitude, il faut s'ouvrir les yeux, voilà, et prendre la main.
Voilà, il faut. Voilà, c'est très, très bien dit. Il y a des solutions à mettre en place. Il suffit d'y penser. Et je vais terminer en disant l'exclusion, comme vous le disiez, d'un grand groupe, mais qui ont encore tant de choses à apporter si on sait les entendre. Caroline Soriol, vous êtes directrice générale de Les Petits Frères. Je vous souhaite une très, très belle période des fêtes et on salue toute votre équipe et votre marraine, Béatrice Picard, qu'on aime beaucoup ici.
Bien, merci beaucoup, Mme Paquette. C'était un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.